Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. On poursuit notre petit parcours parmi les nouveaux directeurs de théâtre à Bruxelles. Et cette semaine, on va aller du côté du Bois de la Cambre, où se niche depuis pas mal d'années maintenant le théâtre de poche. Roland Mahoden a cédé sa place à Olivier Coyette. Olivier Coyette qui nous a reçu et qui nous a parlé de son projet et de sa conception du théâtre engagé à la manière du théâtre de poche. On le retrouve tout de suite.
La Conspiration.
Bonjour Olivier Coyette.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous, maintenant on peut le dire, ici au Théâtre de Poche. Vous êtes maintenant le nouveau directeur de ce théâtre qui existe, qui a été créé au début des années 50, hein, 51, avant de s'installer définitivement dans les années 60 ici dans le Bois de la Cambre. C'est un lieu finalement que vous connaissez bien.
Oui, moi ça fait une dizaine d'années que je travaille au Théâtre de Poche, depuis 2004, mais en fait, en tant que spectateur, j'y suis venu depuis les années 90, donc oui, je connais le lieu.
C'était justement important pour vous de devenir directeur d'un lieu que vous connaissiez si bien.
En tout cas, ça paraît un petit peu plus légitime que d'un lieu où je n'aurais rien eu à voir. Il y a effectivement une filiation. Le Poche, c'est une maison. Il y a un esprit qui y règne. Je m'y sens bien. Je pense qu'il y avait d'autres candidats qui pouvaient y prétendre aussi tout aussi légitimement. Mais il se fait que le projet que j'ai proposé a correspondu. Et du coup, d'une certaine façon, ça me spécialise un peu plus. Parce que sinon, j'étais sur des chemins un peu plus hétéroclites, on va dire.
Vous êtes comédien, auteur, metteur en scène, directeur, c'est l'aboutissement ou une suite logique ou pas ?
Dans ce métier, la logique est bien difficile à trouver. Simplement, pendant des années, je me suis dit, il y a des choses qui ne vont pas dans le métier, ou en tout cas des choses qui ne correspondent pas à mes attentes ou à mes envies. La seule manière, finalement, d'essayer de changer un petit peu les choses, c'est d'accéder à l'outil, de parvenir à accéder à l'outil. Il m'a fallu 10 ans de chemin professionnel pour y arriver. Donc là, maintenant que j'y suis, je vais essayer, moi, de ne pas reproduire des erreurs que j'ai pu reprocher à d'autres. Et du coup, de mettre ce théâtre au service et à la disposition d'un maximum d'artistes. En fait, on constate qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, c'est vrai. Il y a deux manières d'y répondre. Soit dire, fermons certaines écoles, produisons moins d'artistes. Soit ouvrons plus de théâtre. Enfin, je veux dire, moi, c'est plutôt dans cette philosophie-là que je me situe. Donc, on va ouvrir grand les portes du théâtre de poche, essentiellement à la jeune création.
Est-ce que c'était quelque chose qui manquait, selon vous, par rapport à vos prédécesseurs ici au théâtre de poche, l'ouverture ou non ?
Non, le Poche a toujours été un théâtre de jeunes. C'est déjà depuis Roger Domani que la volonté était de privilégier le public des 16-25 ans. Il y a aussi un autre public qui reste jeune, on va dire celui des 25-40 ans, qui est un petit peu, j'allais dire, le ventre mou du théâtre, c'est-à-dire les gens qui y vont le moins. Les jeunes sont, entre guillemets, obligés d'aller au théâtre par l'école, etc. Après, ils continuent un peu. Les personnes plus âgées, par goût, y vont. Mais entre les deux, ça m'intéresserait beaucoup de concerner les gens de ma génération. Et ça, oui, ça manque.
C'est le plus dur, selon vous ? C'est la génération la plus difficile à atteindre ?
Mais oui, parce qu'elle est frappée de plein fouet par la crise. Nous sommes d'abord les enfants de la génération SIDA, donc on nous a dit « faites gaffe quand vous avez des rapports ». Ensuite, nous sommes les enfants du chômage. Nous sommes nés dans les années 70 avec une crise qui commençait, qui n'a jamais cessé, tandis que nos parents ont vécu à une époque de plein emploi. Et donc, je veux dire, pour aller au théâtre, il faut vraiment le vouloir. Alors, il y a effectivement quelque chose qui participe d'une éducation, qui fait qu'on y va, parce que ça fait partie des activités culturelles, comme lire un bon livre, aller à une exposition, etc. Mais le fait de découvrir ce que le théâtre a d'unique et d'original, qui est que des êtres humains se lèvent pour prendre la parole avec tout leur corps face à d'autres êtres humains rassemblés dans une soirée ou dans un moment qui est unique, car il ne se reproduira pas à l'identique le lendemain et il n'était pas pareil la veille. Ça, je pense qu'il faut conscientiser les gens et leur dire aussi que le théâtre les concerne et les regarde. Et du coup, il faut faire aussi des spectacles qui s'adressent aux gens et qui parlent des problématiques des gens. Et ça, le Poche l'a, à mes yeux, toujours fait.
C'est ça. Vous voulez dire que parfois, le théâtre s'est écarté des gens ?
Le théâtre a cru que les gens ne voulaient que du divertissement. Et comme le disait Denis Guénoun dans un livre qui s'appelle « Le théâtre est-il nécessaire ?», question qu'on nous pose souvent, à nous qui en faisons, il dit que le théâtre s'est divisé en deux branches, un théâtre où les gens viennent pour se divertir, c'est-à-dire sortir d'eux-mêmes. On a passé une longue journée, on est fatigué, on va au théâtre pour se délasser, pour se changer les idées, on le considère comme un divertissement. Je trouve que c'est tout à fait digne et c'est une des missions du théâtre. Le théâtre ne doit pas être ennuyeux. Mais il y a un autre théâtre qui est le théâtre où les gens viennent pour se retrouver. Et donc, c'est un théâtre qui pose des questions aux spectateurs. C'est un théâtre qui stimule le spectateur, voire qui le provoque. Et c'est dans cette ligne-là qu'on souhaite se situer au théâtre de Poche. Il y a des spectacles de divertissement, il y a des spectacles beaucoup plus accessibles, mais il y a une préoccupation sociétale et j'allais dire politique qui est propre au théâtre de Poche.
Alors, si mes sources sont bonnes, ça vient aussi peut-être de vos enseignements hétéroclites, je crois, philologie romane, anthropologie, théâtre, évidemment, déclamation, je crois, au conservatoire. Vous aviez eu besoin de toutes ces sources-là pour nourrir votre travail ?
Alors, chronologiquement parlant, j'ai d'abord toujours voulu être acteur. Mais c'est la seule chose que mes parents ont refusé que je fasse. Donc, comme je ne voulais pas faire le droit, car je n'ai pas l'esprit des lois, comme disait Montesquieu, je me suis dirigé vers les lettres, la philologie romane. Parallèlement à ça, j'ai entamé des études au conservatoire, mais en déclamation, car mon horaire ne me permettait pas de faire une formation complète. Et ce sont des études que j'ai complétées par les études théâtrales, d'abord au centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve, ensuite à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et quand j'en ai eu fini avec ses études très imprégnées de culture gréco-latine judéo-chrétienne, j'ai eu envie de découvrir l'islam, j'ai eu envie de découvrir l'Inde, j'ai eu envie de découvrir l'Afrique. Et du coup, j'ai profité d'une bourse de la Fondation belge de la vocation pour m'inscrire en anthropologie et en ethnographie plus précisément, où j'ai eu l'occasion de découvrir, j'ai pas pu découvrir tout, l'islam, l'Inde, ça, c'était des cours théoriques, mais je suis allé en Afrique. Et c'était il y a presque 15 ans déjà. Et ça, ça a été un choc pour moi, le choc que je recherchais d'une autre manière d'aborder le monde, les êtres, etc. Alors dans la pratique théâtrale, il y a des gens comme Peter Brook et d'autres qui ont, j'allais dire, trouvé les universaux du théâtre, c'est-à-dire le geste de la tristesse, le geste de la colère qui sont communs à tous les peuples ou parfois complètement antagonistes. On va faire une scène qui nous fait, qui nous émeut aux larmes en Europe, elle fait éclater de rire les Africains. Donc il y a des choses qui se retrouvent, il y a des choses qui s'opposent et ça c'est ce qui fait l'essence anthropologique du théâtre qui m'intéresse aujourd'hui aussi. Donc c'est vrai que j'ai un parcours, on va dire, hétéroclite, mais quand même aussi avec une certaine cohérence, qui m'amène à la conclusion que le théâtre est une anthropologie, est une étude de l'homme, et la mission de rendre et de tendre au spectateur un miroir tranchant sur sa, pour qu'il réfléchisse sur sa propre humanité.
Et peut-être que la fonction de directeur vous permet de faire cela, justement, en ouvrant évidemment votre théâtre à divers auteurs, divers comédiens, divers metteurs en scène, diverses thématiques. C'est ça aussi, être directeur, prendre encore plus de recul sur le métier ?
Oui, je pense que directeur, c'est s'effacer, c'est ne pas se mettre à l'avant. Roland Mahoden ne l'a jamais fait, il ne s'est jamais mis en avant au Poche, il a mis en avant le Poche. Et le Poche, effectivement, je pense que je peux mettre au service du théâtre mon parcours et mes goûts qui peuvent aller d'un extrême à l'autre, en tout cas qui peuvent être très très variés. Mais il faut bien garder la ligne de la maison qui se préoccupe d'un théâtre d'aujourd'hui et qui parle à des gens d'aujourd'hui de problèmes qui les concernent aussi. Donc il y a une ligne effectivement théâtrale assez claire, mais en même temps il faut qu'on prenne le temps de l'expliquer aux artistes. Parfois il y a des projets qui sont super intéressants, très bien faits, mais c'est pas pour cette maison-ci. Et donc, ce qui serait bien, ce qui serait pas mal, c'est qu'on communique plus entre les différents théâtres pour dire, tiens, j'ai reçu ce projet, il est formidable. Enfin, on commence déjà de le faire, on commence à le faire.
mutual friend introduced us. We talked about the noise and how it's hard to hear your own voice above the beat and the sub bass. We talked and talked for hours. We talked in said it's like the soundtrack to our lives. And she said true, it's not unusual. Then privately we danced but couldn't seem to keep our balance. A drunken haze had come upon us. We sank down to floor, and we sang a song that I can't sing anymore, and then we kissed. And fell.
Vous parliez des atouts du Poche, d'avoir toujours pris la réalité de la société de front, comme ça, et de la présenter au public aussi pour lui permettre de réfléchir sur celle-ci. Quels sont peut-être les manques en ce moment du Poche que vous aimeriez apporter?
Bon, on peut parler en termes de manque, on peut parler en termes de choix. Mmh. Roland Mauden a fait le choix d'orienter le théâtre sur trois axes principaux qui sont, un, l'axe nord-sud, avec une préoccupation majoritairement tournée vers l'Afrique, mais pas seulement. Il y a eu des spectacles sur l'Iran, il y a eu des spectacles sur la Palestine. Bon, un axe jeunesse, ça c'est la droite ligne de Roger Domani aussi, donc un théâtre qui s'adresse aux jeunes et qui est fait aussi par des jeunes. Et puis un spectacle de textes d'auteurs contemporains sur des questions politiques et sociétales avec des auteurs qui sont essentiellement, selon les goûts de Roland, des auteurs anglo-saxons, voire allemands. Bon, moi, je suis moins ennemi du théâtre français, par exemple. Je lui trouve des qualités. Je pense que le théâtre français a beaucoup évolué. J'y ai moi-même travaillé en France avec des metteurs en scène qui travaillent le corps et pas seulement la tête, comme on croit souvent. J'aimerais que le Poche s'ouvre à l'international, d'abord à la francophonie. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le projet Nord-Sud. Donc c'est un projet qui va rassembler différents projets. Certains vont se jouer en Afrique ou ailleurs, d'autres vont se jouer ici, passeront par Bruxelles. Roland est chargé de cette mission-là pour les années qui viennent et d'ores et déjà.
Vous-même, vous êtes d'ailleurs très présent en Afrique, souvent, hein, je crois que... On se croise là entre deux voyages en Afrique.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre expérience ?
La différence et la renaissance, ou en tout cas le fait de ne pas se laisser engluer dans une réalité belgo-belge que je trouve parfois un peu étouffante, avec des problématiques qui sont pas toujours essentielles, mais qui tiennent apparemment fort à cœur des gens. Donc pour moi, c'est distinguer un peu l'essentiel de l'accessoire et se dire qu'ici, en fait, on n'est pas trop mal loti. Donc je veux dire, je voyage entre le nord et le sud, c'est-à-dire que je vais souvent en Afrique, effectivement, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Et là, ils ont plus d'argent que nous, ils ont un pouvoir d'achat plus important, etc. Mais ils ont aussi perdu quelque chose d'essentiel, qui est le lien social. Et en Belgique, on est un petit peu entre les deux. Et du coup, ça me fait aussi beaucoup de bien de revenir à Bruxelles. J'ai l'impression de revenir gonflé à bloc. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une demande qui vient du Sud, une demande culturelle et une demande artistique, et pas simplement des sacs de riz et une aide logistique et financière. Alors, en Haïti, on m'a appelé récemment pour aller donner cours sur les dramaturges allemands. C'est pas ma spécialité, mais ce qui m'a étonné, c'était cette question-là, de dire, est-ce que tu pourrais venir donner cours sur les dramaturges allemands contemporains, parce qu'on manque d'infos là-dessus.
Vous avez dit oui ?
Oui, je vais y aller. Je vais y aller. On m'a demandé d'aller donner cours à Kinshasa, à l'Institut National des Arts. Bref, partout où je pourrais aller, j'irai, parce que c'est un enrichissement. Et là-bas, à Kinshasa, il y a une jeune étudiante qui me dit « Mais pourquoi vous venez ici ?» Mais c'est justement parce que, d'abord parce qu'on m'y a invité, mais aussi parce que toi qui es assise là au deuxième rang, tu vas m'apporter quelque chose dont tu n'as peut-être pas conscience. C'est pas moi qui vais venir te dire, mais c'est notre échange et le dialogue qui va faire que...
Le théâtre rassemble plus qu'il ne segmente.
Mais il est là pour poser des questions à ceux qui veulent bien se les poser. Et en même temps, j'assimile souvent la définition de l'artiste à celle que faisait de l'intellectuel Jean-Paul Sartre quand il disait qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui va là où on ne l'attend pas pour répondre à une question qu'on ne lui a pas posée. Donc il y a un côté poil à gratter chez l'artiste, il y a un côté dérangeant, perturbant, mais le but final, c'est bien entendu de rassembler la communauté. C'est la communauté rassemblée qui est le but du théâtre.
Alors on parlait tout à l'heure des trois grands choix qui avaient été faits pour le théâtre de poche. Parlons des formes théâtrales justement. Qu'est-ce que vous voulez apporter peut-être au niveau des formes théâtrales ?
Alors c'est très intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs très talentueux qui s'orientent aujourd'hui vers ce qu'on appelle des dispositifs avec beaucoup de vidéos notamment ou en tout cas un matériel sonore extrêmement développé ou... des lumières très développées, enfin tout ce qui est technique et technologique très développé, et le texte deviendrait alors au sein de ces différents aspects techniques développés un matériau, un élément parmi d'autres. Il y a ça qui se passe comme évolution, et il y a aussi un théâtre qui voudrait donner à montrer que le personnage est moins important que l'acteur ou que l'acteur, dans ce qu'il est dans la vie, est tout aussi intéressant, voire plus intéressant que le personnage qu'il incarne. Et donc, il y a ce qu'on appelle un théâtre sans la fiction qui a pris sa place dans le paysage contemporain. Je trouve que ces gens qui s'y consacrent sont souvent très talentueux. Mais moi, je suis alors soit déjà trop vieux, soit d'inspiration plus classique. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui incarne un personnage et qui raconte des histoires. Donc je crois encore fondamentalement à la fiction. Je crois que le théâtre est une des branches de la littérature, donc que ça vaut la peine de l'écrire et que le texte est fondateur, est au centre de la représentation théâtrale. Et je pense que le personnage, comme disait Louis Jouvet, Alceste est plus intéressant que toi, à un élève qui travaillait le misanthrope, le personnage est plus intéressant que l'acteur qui l'incarne. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire nous devons jouer comme les Flamands, c'est-à-dire comme dans la vie. Non, il y a un travail, le théâtre c'est un artisanat, il faut du temps pour devenir acteur de théâtre, au moins 10 ans. Je sais que les jeunes gens sont pressés, c'est normal, c'est le syndrome de notre époque, mais pourtant le travail théâtral se fait dans la lenteur et c'est petit à petit avec les évolutions de la vie et les acquisitions techniques que l'on devient un bon acteur de théâtre. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais défendre un théâtre, j'allais dire à l'ancienne, mais j'aimerais bien convoquer ces talents-là pour qu'ils s'investissent là-dedans. Donc, la question du théâtre de témoignage, par exemple. Je discutais avec un jeune metteur en scène qui me dit « Ces témoignages-là, ce seront des vraies personnes qui vont les dire. » Et moi, je défends le fait que ce soit des acteurs qui les disent. Je ne pense pas que ce serait plus fort si c'était des individus lambda ou encore des gens qui ont vécu leur propre histoire. Je pense que c'est plus fort quand c'est des comédiens qui interprètent et que le public croit ou il a envie de croire à ce qui est dit. On parle souvent de Rwanda 1994. Après le témoignage de Yolande Mukagasana, pour moi, tout ce qui a suivi dans ce spectacle remarquable de Jacques Delcuvelry et du groupe OFF n'atteignait pas le degré d'intensité de ce que Yolande avait raconté, qui était son histoire, qui était sa cruelle et terrible histoire, son terrible témoignage. Du coup, pour moi, ce spectacle, je ne l'ai pas vécu comme une victoire du théâtre, mais comme une défaite du théâtre. Ce théâtre m'a paru complètement impuissant à égaler la force du témoignage humain. Or, je pense que notre travail, c'est d'arriver à égaler la force du témoignage humain sans que l'on doive recourir à la douleur réelle d'une personne qui a vraiment vécu ça. Pour raconter les témoignages des génocides rwandais, il ne faut pas faire revivre dans la douleur les souvenirs de ceux qui l'ont vécu. Il faut que des acteurs incarnent. Et là, sur la question de la vérité, sur la question du témoignage, sur la question du fait de parler de la société et du monde, il y a ceux qui pensent que les personnes concernées pourront mieux témoigner que les acteurs, et ceux qui, comme moi, croient encore en la force du théâtre et de l'incarnation et du travail artistique et artisanal qui est le nôtre.
Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, mais pour meubler le sacrifice avec le sapin de service.
Alors, le rôle du directeur, c'est d'aller chercher justement ces textes, ces histoires qui vont être racontées, mais c'est aussi offrir aux artistes un cadre de création ad hoc. C'est ça qui est le plus dur peut-être aujourd'hui.
Mais je pense qu'une des missions du directeur, c'est aussi d'aller chercher des fonds. Donc, c'est aussi d'avoir des comptes en équilibre. Là, on est en train de s'occuper de ça. Mais. Ça va vite, les dépenses en excédent. On fait du théâtre avec très peu d'argent, en fait. C'est pas dans le théâtre qu'il faut aller chercher les malversations ou les excès, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent au cinéma, il y en a aussi beaucoup plus dans l'opéra. On fait vraiment du théâtre avec quelques milliers d'euros pour une scénographie ou un décor. Les artistes font des merveilles avec très peu, parce qu'il y a un très très fort désir de jouer et un très très fort désir d'occuper le plateau. Et donc, les conditions ad hoc, c'est déjà formidable d'ouvrir la porte, comme ce qui se passe en ce moment, un spectacle avec une vingtaine de comédiens, en fin de saison, certes, pour deux représentations seulement, mais quel formidable espace de parole c'est donné. Et ça, c'est aussi le fait que le théâtre est un service public. Et que c'est un... Après, pour faire un spectacle, les gens ne sont pas trop au courant des budgets. Ils croient encore que les recettes, c'est-à-dire le prix de la place, va compenser le coût du spectacle, alors qu'on pourrait totalement faire des entrées gratuites et ça changerait rien. Je veux dire, les entrées ou les recettes propres changent très très peu dans l'économie d'un théâtre, sauf quand les spectacles tournent et donc ils rentabilisent au maximum. Mais quand ils sont en création, des créations, le prix que va payer le spectateur pour sa place ne va compenser qu'à hauteur de 10-15% le coût total du spectacle. Et ça, les gens ne savent pas que pour faire un spectacle avec 2-3 comédiens, on arrive vite à 100 000 euros si on veut le faire dans les conditions ad hoc, comme vous dites. Parce qu'il y aura des périodes de répétition, il y aura des collaborateurs au son, à la scénographie, au costume, à la dramaturgie, etc. etc. Il y aura des phases de répétition. Et donc, on arrive vite à des sommes importantes.
On arrive à un point clé. L'année prochaine, les théâtres mettront leur nouveau projet pour les contrats-programmes. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Mais non, moi, je suis de nature optimiste. Donc, il n'y a pas de raison, comme disait Jefferson, de craindre des malheurs qui ne sont pas encore arrivés. Donc on va d'abord attendre.
Vous allez confiant avec votre projet en tout cas.
Et oui, le projet du Poche, il est cohérent. Et puis nous avons satisfait à tous les objectifs demandés par le ministère dans le précédent contrat programme. Et nous avions un plan d'apurement en janvier qui n'est plus en cours au mois de juin. Donc en 6 mois déjà, on a apuré une partie de ce qu'il fallait. Donc nous sommes dans le vert au niveau des comptes. Je pense qu'on ne peut rien nous reprocher. Et je dirais même que nous demandons une augmentation.
Alors, si on jette un coup d'œil sur la saison prochaine, on va parler d'intégration, d'insécurité, d'euthanasie aussi, du paraître également, dans les différents pays, avec des artistes qui viennent d'un peu partout. Aurore Fatier, Axel de Bosseret, Mireille Bailly, Ali Jaco, Patrice Mac également. Comment se sont construites ces associations ?
On a tout décidé de concert avec Roland Mahoden. C'est une saison conjointement pensée. C'est une saison de transition aussi entre l'ancienne direction et la nouvelle. Il y a Pop-Up, la compagnie Pop-Up, animée par ceux qui ont créé Arsenic, la compagnie Arsenic, que j'ai tenu à accueillir. Ça a été mon premier choix, que j'ai proposé à Roland, qui a tout de suite accepté. Parce que je trouvais que ce n'était pas correct ce qui leur était arrivé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc je suis très heureux que Le Poche, entre autres lieux, leur ouvre grand les portes pour une ou plusieurs créations. Je pense que, je l'espère en tout cas, on pourra faire plusieurs spectacles ensemble. Ça me tenait très fort à cœur. Moi, j'avais travaillé avec Axel de Bosseret, Mireille Bailly, Magui Jaco et d'autres pour la création du spectacle Dérapage, un camion pour la démocratie. Spectacle qui se jouait dans un camion, pour 30 ou 40 spectateurs, qui durait 30 minutes et qui concernait l'extrême droite. Aurore Fatier, c'est l'Insas. C'est une autre branche. C'est, j'allais dire, un spectacle ludique en fin de saison, inspiré d'un manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes demoiselles et des jeunes épouses pour essentiellement avoir un comportement affectif, voire sexuel, correct, approprié par rapport à leur mari. Donc c'est en fait une réflexion sur la domination, le patriarcat ou la domination masculine qui a sévi jusque dans l'esprit des femmes, jusque il y a peu, enfin je veux dire. Donc ça va parler du féminisme, ça va parler de la guerre des sexes, ou en tout cas ça devrait concerner un public des 16 à 25 au moins et autres, mais en tout cas questionner les gens et les jeunes sur quel est votre rapport à l'autre sexe ou au même sexe à l'heure de la pornographie aussi. Il y aura d'autres spectacles sur ce thème-là d'ailleurs. Et puis vous avez cité Patrice Main qui ouvre la saison. Patrice a eu un coup de cœur, donc lui c'est un Bruxellois, il a eu un coup de cœur pour ce texte de Denis Kelly, Orphelin, qui est un texte très fort. Et Roland aussi. Donc ça, c'était une évidence pour Roland depuis longtemps, qui souhaitait ouvrir sa saison avec ce texte-là. Il y a deux reprises. Il y a Roland qui signe une mise en scène d'un spectacle sur l'euthanasie, qui est un sujet qui le touche, sur lequel il réfléchit depuis longtemps. On a lu beaucoup de textes de théâtre et autres sur la mort moderne, sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui le droit de mourir dans la dignité. Et on a fini par choisir celui-là parce qu'il est très complet et très très bien écrit. Lucas Barfus est un des auteurs contemporains les plus importants. Et puis je signe aussi une mise en scène de punk rock de Simon Stephens sur les jeunes et la violence chez les jeunes. Donc vous voyez que Le Poche reste dans la ligne qui a toujours été la sienne.
Alors quand on voit les états de service de vos prédécesseurs, Roland Mahoden, 20 ans, Roger Domani, plusieurs décennies également, vous êtes parti pour autant d'années ?
Non, je crois pas, parce que l'époque a changé et puis les lois ont changé aussi. Je pense qu'il est très bon qu'il y ait de l'alternance. Maintenant, la question que je vous retournerai, c'est après, je vais où ? Je rebondis comment ? C'est ça le problème de ce pays, c'est que quand vous arrêtez une activité, vous retombez à zéro et tout le monde trouve ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. D'abord, je trouve qu'il faudrait beaucoup plus encourager les gens qui ont du talent et l'esprit d'initiative, ce qui fait que j'ai travaillé à Chicago, à Montréal, à New York et à Atlanta. Et à Paris, plus qu'à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, quand vous en faites trop, comme disait Jacques Huysmans en Belgique, que pas une tête ne dépasse, sinon 10 aussitôt se lèvent pour la couper. Donc c'est quelque chose que je déplore très énormément dans ce pays. Il faut encourager les jeunes, il faut encourager les gens qui ont des idées, qui ont une force de travail, qui travaillent 15 heures par jour, qui sont dans la flexibilité et la mobilité. Mais après, quand on a satisfait, quand on a obtenu des résultats, quand on a fait des choses, il serait normal qu'on soit récompensé. Alors, la direction du poche, moi, je la vis comme une récompense. C'est sûr que c'est une joie quotidienne d'être ici. Je n'en reviens pas encore parce que ça change ma vie du tout au tout. Entre le statut de l'artiste qui est au fond un chômage amélioré et une place dans la société où il suffit de dire « bonjour, je suis le directeur », on ne cherche pas à savoir si vous êtes bon ou mauvais directeur, la simple qualification suffit. Tandis que si vous dites « je suis metteur en scène », « ah bon, qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis acteur, on ne vous a pas vu au cinéma, donc vous ne connaissez pas. » Voilà, c'est beaucoup plus, on est plus jugé. Donc d'une certaine façon, j'échappe pour l'instant, en tout cas au jugement, plus que je ne le faisais quand j'étais artiste. Mais du coup, moi je me suis préparé déjà. Donc a priori, je suis là pour 5 ans. Peut-être je pourrais faire 2 mandats, ça fait 10. Mais peut-être je n'en ferai qu'un. Et du coup, quelqu'un d'autre viendra. Cela dit, pour une maison comme La Poche, il faut quand même le temps de développer un projet. Il y a ici le projet de construire une deuxième salle, une petite salle. J'en parle parce que c'est un projet qui avait été acté par la ville de Bruxelles il y a déjà quelques années, qui n'a pas pu voir le jour, mais qui se remet en cours. Ce serait normal. Le théâtre de Poche est le seul théâtre important bruxellois qui n'a pas de lieu de répétition. Donc on nous donne de l'argent pour louer des salles. Au lieu d'en construire une, on pourrait travailler à demeure. Je pense qu'il faudrait quand même mettre un petit peu de cohérence. Mais comme nous sommes dans une époque de crise, n'est-ce pas, c'est un peu difficile. Mais enfin, le projet, on le remet en route. Donc, pour mener à bien ce projet-là, il faudra bien 2 mandats.
C'était donc Olivier Coyette, nouveau directeur du Théâtre de Poche. Il nous parlait de sa philosophie, de sa manière de voir le théâtre. Pour découvrir eh bien, sa saison, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.poche.be. Cette émission, vous pouvez la réentendre en rediffusion ce jeudi à 13h30 ou en podcast sur le site demandezleprogramme.be. La semaine prochaine, nous recevrons Peggy Thomas, nouvelle directrice du Théâtre de la Ville. Très très bel été à vous et à très bientôt.
Constelación.